Fier récipiendaire du prix Achat local lors du Gala des Pléiades 2021, la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise? Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109 Côte-du-Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis, ou magasinez en ligne au www.boutiquejoségagnon.com.
Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com.
Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking!
Vapking, je l'étudie, Vapking!
Vapking!
Les Taizone de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15 % de rabais sur la commande en ligne avec le code TAI15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général Tao préféré sur taizone.ca. Top Sex Shop,
Eros et compagnie. En couple ou seul?
Eros et compagnie.
Présentation à domicile.
Eros et compagnie.
Lubrifiant, jeu,
pont,
vibrateur, lotion, lingerie, fétiche.
Top Sex Shop, Eros et compagnie.
Dis oui à tes envies.
124, route du président Kennedy à Lévis.
Erosetcompagnie.com.
Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? lbbauto.com.
Snackdown, ah ouais, par là. À côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins.
Snackdown, les Snackdown!
Des grignotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid.
C'est dedans la maison!
Vos tripes bouffe ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils vécurent heureux et la bédaine pleine.
Snackdown, ah ouais, par là!
18 ans et plus! Sexualité! Non! Juste pas pour les doux!
Jamais elle aime les retours de pause country.
Ah oui, j'aime ça, moi, le country.
Tu fais bien.
Oui, ça donne soif.
J'essaye de trouver le convoi, là, parce que je veux faire la circulation dans le secteur où est le convoi.
Oui, ça doit pas être simple, ça.
Ça doit pas être simple. Tu dis que c'est pas simple, toi. J'ai encore une fois de la difficulté à savoir exactement où ils sont présentement. Je le sais qu'ils sont dans le secteur de Toronto. OK? Je sais pas exactement. On est dans l'agglomération dans le secteur de Toronto parce qu'on veut rejoindre Ottawa demain.
Anyway, c'est le temps bloqué là-bas.
C'est ça. C'est que présentement, est-ce que c'est le trafic du haut convoi ou si c'est le trafic habituel? Je ne saurais.
On va écouter l'émission à Marie-Saint-Laurent demain midi. Il y aura une tribune libre. Les gens vont appeler directement du convoi à plein. On a des gens sur la route aussi en mode journalisme. Là, on va vers un autre sujet et ça a un lien avec la boisson dont je cherchais le nom tantôt. Ça s'appelle Jarritos, disponible seulement chez Snacktown, dedans la Maison d'Herbe, à côté de la SQDC, sur Président Kennedy. Autre registre, mais quand même connecté, parce qu'il y a Jarritos Samson, mexicain au cerveau. On n'a jamais parlé autant du Mexique que présentement. On a deux chroniqueurs réguliers sur place cette saison. Mes copains influenceurs là, qui m'ont imité... qui ont brossé dans l'avion. C'est moi aussi, je suis allé au Mexique. Le Mexique, etc., etc. Ça se trouve sur toutes les lèvres. Et je suis tombé sur le livre de Jérôme Blanchet-Gravel qui tape là-dedans, toute chose, comme la misère sur le pauvre monde. Salut, Jérôme.
Salut, Guillaume, comment ça va?
Content de te retrouver. Ça va bien toi-même?
Très bien, merci.
Vraiment un excellent livre, un Québécois à Mexico, récit d'un double choc culturel. Ça se lit comme un roman philosophique, je sais pas. Mais j'ai vraiment apprécié. J'ai appris des choses, des mots comme xénophilie, qui va me servir à l'occasion dans l'avenir. Mais au fond, c'est un résumé de ta position sur les mesures avec une mise en contexte de comment tu es parvenu à ça. Est-ce que je suis près de la vérité?
Oui, j'aime beaucoup le concept de roman philosophique. C'est bien dit. C'est merci. Si ça a l'air de ça, ça veut dire que c'est réussi parce que c'est ça, c'est entre le récit et l'essai. Donc, roman philosophique, je trouve que ça résume bien là, ce que c'est. Donc, ben écoute, pour les gens qui ne le savent pas, je partage maintenant mon temps entre Québec et Mexico. Et là, depuis la pandémie, Je suis beaucoup plus à Mexico qu'à Québec, mais je suis toujours ancré à Québec. Donc, c'est ça, je suis auteur. Puis, c'est la première fois que j'écris un livre qui n'est pas un essai, mais qui est un récit. Donc, c'est un livre qui est plus accessible et dans lequel, effectivement, je critique beaucoup le mode de vie au Québec. Et la pandémie était extrêmement révélatrice de ce qui était devenu le Québec. Donc, une société de plus en plus aseptisée, qui s'enfonce dans la peur de vivre, une société où l'État tend à réglementer. C'est une société ultra. On adore les règles au Québec. Mon Dieu, qu'on aime ça, les règles. Le Québec s'est rendu la société où tu stationnes croche ton char dans la rue puis ton voisin t'appelle parce que t'es pas entre les deux Link Jones.
C'est un bel exemple. Puis ce véhicule-là, que j'ai l'impression que c'est un cas aussi vécu, ça se sent dans le livre. C'est la colonne vertébrale, mais c'est bien alimenté avec des références historiques. Puis oui, des références, je dis philosophiques, mais de sciences sociales en général.
Ouais.
Et dans ce récit-là, moi, il y a quelque chose qui me revenait comme questionnement. Je sais pas si j'ai skippé un bout, mais je trouvais que tu n'as pas insisté beaucoup pour le pourquoi, au départ, t'en aller à Mexico en partant de Québec avant que tu rencontres ta femme qui est maintenant dans ta vie avec la petite et tout ça. C'était pas dans ta mire d'aller te chercher une blonde là-bas. C'était quoi vraiment les raisons profondes du premier départ?
Non, mais écoute, comme je le raconte dans le prologue... C'est vraiment l'histoire d'un simple coup de foudre. Je m'en vais à Mexico la première fois en juillet 2018 par simple curiosité. J'ai toujours été un amoureux du monde hispanophone. J'étais surtout allé en Espagne. Et tout d'un coup, je me dis, à la veille de l'élection du nouveau président...
López Obrador.
Exactement, c'est le fameux AMLO, surnommé avec ses initiales. Donc... Je dis, bon, pourquoi pas aller faire un tour à Mexico? C'est de la curiosité. Je savais, bon, que c'était une grande, grande ville. C'est un monstre. Il faut le rappeler aux auditeurs.
C'est simplement une curiosité touristique.
Oui, tout à fait.
Ben, un peu d'anthropologie, un peu de volonté dans l'écrivain que tu es, de possibilité de comparaison aussi, d'emblée. Donc, si je comprends bien.
Simple curiosité, carrément. Absolument. Et, bien, c'est ça, je tombe en amour avec la ville, qui est une ville de 25 millions, il faut le dire. Il faut vraiment le préciser aux auditeurs, c'est monstrueux, la ville de Mexico. Donc, souvent, les gens m'imaginent à la plage, au Québec, mais je suis très loin de la plage.
Il y a à peine un lac pas loin, c'est assez désertique.
C'est une mégalopole. Donc, Et au fur et à mesure, mon premier séjour, ensuite un deuxième séjour, troisième séjour, jusqu'à une installation, jusqu'à temps de me louer un appartement, finalement, puis de rencontrer ma femme.
Okay.
Et là, ça va devenir quasi permanent. Là.
OK, donc tu étais déjà en mode, tu étais un habitué de Mexico avant de te matcher, en bon français.
Oui, puis avant la pandémie aussi. Et quand la pandémie démarre, je raconte tout ça, je retourne un peu au Québec, et là, c'est le... c'est le tout le monde de contraste qui part dans le livre. Hein? C'est un livre qui est sur le Mexique, mais c'est aussi un livre sur le malaise québécois, le malaise occidental. Donc, c'est à partir d'un effet de contraste que là, que j'analyse ce qui est devenu le Québec par rapport à ce qui est le Mexique. Donc, une société qui, oui, est extrêmement violente, c'est le grand paradoxe, mais aussi extrêmement vivante.
Chaleureuse. Donc, tu racontes à un moment donné le condo que tu as acheté à Québec pour revenir passer le confinement, là, mettons. Puis tu as de la misère à avoir un regard, ne serait-ce, de tes copropriétaires. Là. C'est même pas des voisins, c'est carrément du monde avec qui tu es en business. Ils ont de la misère à te dire salut.
Ben oui.
Alors qu'au Mexique, tu croises des gens comme ça, tu te mets amis, tu les invites à la maison. L'histoire du petit réparateur aussi, ou pas réparateur, celui qui t'a installé un cadre est assez remarquable. Je te demanderais peut-être de porter ça à la connaissance de nos auditeurs.
C'est à partir de... Je raconte toutes sortes d'anecdotes qui illustrent effectivement la différence entre une société organique, société chaude, mais pas juste sur le plan de la température, là, une société chaude sur le plan social, et avec le Québec, donc une société qui est devenue une société d'être bureaucratisée, où les gens, effectivement, des fois, ont de la misère à se regarder, à se saluer, et on s'en rend pas compte. Nous, on, au Québec, on vit un peu dans le mythe de la solidarité. Hein. Apparemment, on a été si solidaires durant la crise sanitaire. Apparemment, on s'est surpassé en solidarité au Québec, alors que pourtant, moi, j'ai plutôt vu de l'égoïsme des classes privilégiées et de la part de certains baby-boomers.
Aucun doute. La classe donc, politique aussi qui gouvernait au sondage, puis qui faisait pas la part des choses entre des gens qui répondaient à des sondages motivés par une peur qui a été induite à la base par ces mêmes politiciens-là qui après ça se guident avec ça. Mais ouais, l'épisode du poseur de cadre était évocateur, mais je vais inviter les gens à aller consulter le livre. Vous allez tomber dessus assez rapidement. C'est quoi? C'est 200 pages. C'est vrai que c'est très accessible. Et j'ai aimé, je vais passer à un autre registre, ça va vite, les remarques sur le Mexique, la société mexicaine qui c'était dans la candeur, mais tu te prives pas non plus de remarques qui sont pas nécessairement si positives que ça. Et ce qui me frappait, c'est les Blancs, comment c'est une caste là-bas qui est séparée. Puis j'ai remarqué moi-même, ben en fait, un de mes chums, on était en taxi dans le coin de Riviera Maya, il dit « Man, t'as-tu déjà vu un Maya sur une pancarte? C'est tout des Blancs! »
Ben oui.
Spécial.
Tu as raison. Le Mexique est resté une société coloniale. Et là-dessus, je suis d'accord avec... on a une certaine gauche au Canada, puis dans tous les pays des Amériques, il y a cette gauche, la gauche décoloniale, la gauche qui déboulonne des statues. Et sans être pour le mouvement, je ne suis pas pour moi, je suis contre le fait de vouloir effacer le passé occidental en Amérique, que ce soit au Canada ou au Mexique, mais force est de constater au Mexique que c'est vraiment une société, oui, où la richesse est concentrée dans les beaux quartiers et entre les mains, effectivement, des descendants des Espagnols. Ce ne sont pas les descendants des Amérindiens qui ont le pouvoir économique au Mexique, très certainement pas. Et quand on regarde la télévision, par exemple, au Mexique, tu te dis, est-ce que j'écoute la télévision espagnole ou j'écoute la télévision mexicaine? Tu te dis, mais où sont les gens que je vois tous les jours dans la rue?
Puis c'est
où
la majorité de la population. Là, des
ah oui, 90 % facilement.
90, hein, oui.
Ah oui, facilement. Écoute, 90 % des Mexicains ont des origines autochtones. Wow. Et où sont-ils? Est-ce que, donc, c'est pas eux qui occupent des chaires de recherche à l'université. Non. C'est pas eux qu'on voit qui sont pas les lecteurs de nouvelles. C'est pas eux qui sont souvent les politiciens. Donc, il y a une sorte de racisme. Moi, j'aime pas le terme de racisme systémique, parce que je trouve qu'il est très connoté. On l'utilise un peu à n'importe quelle sauce, mais il y a clairement ce qu'on a un racisme historique envers les Mexicains d'origine autochtone. Puis le président AMLO actuellement, ouais. Ben, un de ses projets, c'est justement de revaloriser l'apport amérindien à la société mexicaine pour rééquilibrer un peu. Parce que le Mexique, c'est vraiment double. Hein. C'est à la fois espagnol et amérindien. On ne peut pas effacer ni l'autre de ces deux composantes. Donc là-dessus, je suis d'accord avec le président qui a bien des défauts, qui est un type qui a des tendances socialistes ouais. assez fortes sur le plan économique, mais sur ouais. le plan identitaire, on ne peut pas rejeter la part amérindienne du Mexique, c'est, ça n'aurait pas d'allure. Là.
Mais il y a du désenchantement en ce sens-là aussi, de ce que je comprends dans la population aux racines autochtones. Il y en a de l'autre côté. Par contre, juste mention, moi, dans des pays en voie de développement, être plus socialisant et entre guillemets progressiste, ça, des fois, ça peut être plus pertinent. Mais ouais, pour les Autochtones et son rôle pour les revaloriser, est-ce que tu sens ce désenchantement-là? Donc, moi, j'ai entendu parler un peu.
Désenchantement, tu veux dire que les gens seraient déçus?
Manuel Lopez Obrador et sa job en ce sens de
non,
redonner du pouvoir.
Il est encore très populaire, le président. Okay. Des fois, il fait des choses un peu spéciales. Récemment, il a invité le président cubain, par exemple, à la cérémonie d'indépendance. Ça a beaucoup choqué. Okay. Mais il est vraiment très populiste. Hein? C'est un type qui, par exemple, c'est un type qui porte pas le couvre-visage, le masque. C'est un gauchiste contre le sanitarisme. C'est très intéressant. Mmh. Donc, on est vraiment... C'est le contraire de ce qu'on voit aux États-Unis au Canada. Ouais. En général, la gauche...
Le sanitarisme est progressiste.
Oui, tu sais, Trudeau, par exemple, est plus sanitariste que les conservateurs. Même si les conservateurs au Canada, c'est pas trop très si loin que ça du Parti libéral, mais c'est un autre sujet.
Erin O'Toole, surtout, hein.
Mais AMLO, c'est un type qui... il est provocateur. Écoute, il va dire, là... Écoutez, continuez à vous embrasser, à vous serrer dans vos bras. Il va dire ça en pleine vague, là. Donc, il a été accusé quand même par la presse libérale progressiste là, de contribuer à, évidemment, à augmenter le nombre de morts. Mais, écoute, c'est un type qui se promène encore dans la foule. Il a fait des meetings. C'est vraiment une espèce de Bolsonaro, mais de gauche.
Ben, c'est un populiste. Puis tu dis, il a invité le président de Cuba. Il était quand même assez capable de faire des affaires avec notre ami le gros Orange aux États-Unis quand il était là.
Oui. Pour
revenir chez nous, parlons de ce qu'on appelle maintenant les mesures qui sont au fond des actions gouvernementales que nos gouvernements, leurs fondations, ont promis de jamais faire outre dans des circonstances extrêmes. Mm-hmm. Il y en a comme nous qui disent que ces circonstances-là ne sont pas assez extrêmes pour les actions. Est-ce que le problème, c'est que trop souvent, c'est amené avec émotivité, tout ça, que ça soit en termes de... Tu sais, je sens une émotivité latine mal gérée. On a encore des racines comme ça au Québec. Tu es capable de me faire un parallèle avec le Mexique en ce sens-là, que ces impositions-là, comme les opinions contraires aux mesures... Il y a une émotivité qui est contre-productive ici. Peut-être comme
je te dirais, une émotivité, très clairement. Latinité, non. Il faut vraiment venir en Amérique latine pour voir que les Québécois n'ont presque plus rien de latin. Là, on est vraiment là, c'est un mythe qu'on a entretenu. Écoute, on est peut-être rendu encore plus protestant que nos voisins canadiens-américains. Écoute, c'est rendu qu'il y a peut-être plus de fun en Ontario qu'au Québec.
T'as pas dit ça, man.
Écoute, non, mais c'est creux. Imagine, là, si les Ontariens ont plus de fun que les Québécois, c'est que ça va mal à la shop, là. Écoute, t'as vu au jour de l'an? Écoute, même les Torontois avaient le droit d'exprimer leur joie de se rassembler. Et le Québec, lui, qui est le seul État sur 92 en Amérique du Nord, puis là, je compte les États au Mexique,
okay.
Le seul État sur 92 en Amérique du Nord, le Québec, à interdire toute forme de rassemblement pour le nouvel an.
Plus un couvre-feu, plus les restos fermés, ben oui. Ça aussi, c'est assez unique.
C'est un délire total. Le Québec vit vraiment une psychose. Là, il y a un début de réveil.
Ouais.
Est-ce que le convoi des camionneurs va contribuer à ce réveil-là? Mais c'est quand même... C'est très graduel. Il y a vraiment au Québec un noyau dur d'être bureaucratisé et puréalisé du cerveau. Là.
L'embrigadement, la programmation, comme Mme Guilbeault avait parlé, a été plus puissant ici qu'ailleurs. Puis c'est peut-être parce que, justement, cette notion-là de la liberté, ça fait longtemps quand même que c'est présenté de façon péjorative. Et tu lis dans mes pensées pour la manif des camionneurs. Il n'y a pas eu de mouvement en 2 ans qui a eu de l'allure. Il y en a eu, mais souvent, là, les problèmes du grand public, c'est qu'il y avait, à l'instigation de ça, moi, ce que j'appelle des sniffeux de chemtrail. Il y en a peut-être là, dans l'histoire des camionneurs. Mais je voudrais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu appuies ce mouvement-là, moi, perso, j'ai donné le mot comme quoi je suis d'accord. On a du monde. On incite les gens à se joindre à ça, même à envoyer de l'argent. On gérera plus tard le GoFundMe. C'est inquiétant en même temps. Il y a des années qui ont évoqué un 6 janvier canadien. Comment tu te situes là-dedans?
Mais écoute, je pense que si on avait eu des élites au Québec et au Canada qui avaient fait leur travail, qui avaient fait contrepoids au gouvernement, donc un travail critique. Si les journalistes avaient fait leur travail au Québec et au Canada, ils l'ont fait un peu plus au Canada anglais qu'au Québec, peut-être qu'on n'aurait pas actuellement des centaines de camionneurs qui se dirigeraient vers la colline parlementaire. T'sais, d'abord, c'est parce qu'il y a un énorme déficit journalistique, critique. Là, je veux dire, il y a du monde qui n'ont pas fait leur job. T'sais, maintenant, c'est parce que ça prend une société civile pour faire contrepoids aux décisions d'un gouvernement dans des sociétés normales en général.
Le quatrième pouvoir n'est pas une lubie, c'est important. Puis c'est vrai qu'il a été
familier. Vous l'avez fait à la station, je vous félicite d'ailleurs pour ça.
Merci.
Mais vous n'êtes pas des centaines. Là.
Non, c'est très rare, puis c'est très difficile aussi parce que là, les perceptions, c'est rapide que ça se cristallise, puis que c'est négatif, puis que tout est dans le bain. Comme le bébé, et ça s'en va dans le drain. Mais ouais, t'es favorable à ce mouvement-là? Tu vois ça d'un bon œil? Les truckers?
Ben écoute, pour l'instant, je reste un observateur. J'espère qu'il n'y a pas de débordement, mais en même temps, on reste au Canada. Là, ça m'étonnerait que samedi, c'est ça, que la police se mette à tirer sur des manifestants, bon, qui très hostiles. Là, j'ai vu toutes sortes de commentaires chez les critiques qui disent « Ah, si vous venez, c'est à vos risques et périls, etc. » Je pense pas qu'on va se rendre quand même à une insurrection avec une réaction du gouvernement, une répression policière comme on voit ailleurs.
Là, pour avoir parlé aux organisateurs...
C'est un pays pépère, pareil. Là,
ben, c'est clair. Mais pour avoir parlé aux organisateurs québécois, sont ouais. très fermes sur le respect de la sécurité, puis qu'au moindre acte de violence, il y aura des actions prises. Ils ont engagé de la sécurité. Les mots sont passés, puis régulièrement martelés. Et que ça me semble assez sain. On espère que ça puisse fonctionner un peu. Et ils ont enfin aussi trouvé une façon... Ils ratissent large. Ils sont pas anti-vaccins. Ils sont pas là à nous dire qu'on est dirigé par des pédos satanistes. Tabarnak. Ils sont englobants et à date, c'est ce que j'ai vu de mieux. Mais parlant de théorie du complot comme ça, perso, moi, j'ai avancé un peu plus en ce sens-là pendant les fêtes. Premièrement, j'ai lu Propaganda d'Edward Bernays. J'ai relu ça et ça m'a rappelé qu'il faut être paranoïaque un peu avec nos gouvernements. Mais aussi, j'ai pogné un gars comme Klaus Schwab qu'on me présentait comme le démon depuis des mois, puis ça m'énervait, puis j'étais comme « Ah, c'est un progressiste de plus qui dit qu'il veut profiter de la crise pour faire avancer ses trucs. » Mais là, il était rendu qu'il parlait de transparence totale, puis que si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'opposerais à ce que le gouvernement t'observe de tous les angles possibles? Es-tu un complotiste un petit peu toi-même? Comment tu vois le quolibet, puis comment tu perçois certaines des théories qui, de plus en plus, avec l'acharnement gouvernemental, deviennent, on les regarde sous un angle où on peut être plus crédule?
Mais moi, je pense pas que personne ait démarré la pandémie de manière intentionnelle. Là. Quand on dit une plandémie, je trouve ça un peu fort. Là. Ceci dit, c'est sûr que il peut y avoir des grandes entreprises et des genres de lobby qui veulent profiter effectivement de la crise. Ils le disent comme ça dans le Great Reset. Là.
Ouais, ouais.
Donc, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc. Donc, les gens peuvent vérifier. C'est la proposition de Schwab et de son compagnon Malraux, c'est de créer, d'implanter de nouvelles habitudes dans la population. Donc, qui passent par le numérique, le télétravail, ouais, etc. Ça. Donc, sur ce plan-là, ça paraît assez évident qu'on est devant une sorte de révolution numérique. Et c'est pas les Facebook, Amazon, Google, qui sont extrêmement puissants, qui vont vous dire de vous déconfiner. Pourquoi? Parce que plus les gens sont chez eux devant leur écran, eh bien, plus ces groupes-là, qui sont énormes, font de l'argent. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ces énormes compagnies vous disent de vous déconfiner et de reprendre votre vie normale. Donc, c'est clair qu'il y a des acteurs qui vont profiter de la crise aussi sur le plan écologique. Ça paraît évident. Ouais. Donc, le télétravail, on dit que ça sauve les émissions de CO2, ça aurait diminué, etc.
Ouais.
Donc, je suis complotiste, entre guillemets, mais c'est pas du complot, encore une fois, parce que de toute façon, c'est écrit noir sur blanc. Donc, les gens peuvent bien vérifier s'ils veulent.
Mais après, c'est pas comme s'il n'y avait jamais eu de complot dans l'histoire de l'humanité non plus.
Non, c'est ça. Puis les lobbies pharmaceutiques, écoutez, Pfizer, c'est quand même bien une compagnie qui a fait fortune pour vendre des pilules pour que les gens puissent avoir des meilleures érections. T'sais, c'est quand même, je sais pas, c'est-à-dire que c'est du monde qui veut faire de l'argent. Il ne faut pas penser que c'est comme de l'humanitaire pur, puis que je veux dire, ces gens-là vendent des pilules bleues pour que les gens puissent bander. Là, c'est ça leur...
En vente libre au Mexique, ça, d'ailleurs. Quelqu'un m'a dit ça.
Ah, tu sais, t'en vends libre. À peu près tout est libre ici.
Oui, on a une chronique là-dessus, d'ailleurs. Nadia, qui est de l'autre côté, côte pacifique au Mexique, va nous expliquer un peu. On a un Price is Right des médicaments au Mexique, tantôt. Entre autres. Et ça mène à parler de l'effet nocebo. Je voulais t'entendre là-dessus. Moi, depuis le début, je martèle que c'est une notion négligée et que des médias, avec leurs chiffres en rouge puis leur dramatisation constante, c'est pas nouveau ça, mais ça tue carrément des gens. J'ai en tête une étude qui m'avait été présentée dans mon premier cours d'université en psychologie, une dame sous hypnose, on lui met une pièce sur l'avant-bras puis on lui dit que c'est brûlant. Elle se réveille, elle a une cloche d'eau d'un pouce. L'étude aussi du CHU de Paris, je ne sais pas si tu as pu voir ça, qui avait 27 000 sujets 15 médecins en aide à mener ça à bien, le directeur du département de psychiatrie. Ces 27 000 sujets-là disaient avoir la COVID longue et on leur a passé des tests sérologiques et il y en avait seulement 1200 qui avaient eu la COVID.
Ben oui.
L'effet nocebo, selon Jérôme Blanchet-Gravel.
Écoute, je suis pas scientifique. Ce que je comprends, c'est qu'on a quand même exagéré beaucoup de choses durant cette pandémie-là. Puis la vaccination, bien, moi, je suis pas du tout anti-vaccin. Je suis pas contre le vaccin. J'ai deux doses d'Astra. D'ailleurs, des doses qui avaient été données par le Canada au Mexique parce que c'était des doses qui créaient trop d'effets secondaires. C'est quand même drôle. Mais ce que j'ai critiqué durant la crise, c'est ce que j'ai appelé l'idéologie du vaccin. C'est-à-dire que là, c'est le vaccin comme baptême. On veut convertir les gens. Là, on fait une espèce d'évangélisation sanitaire. Puis là, c'est les gens qui ne sont pas assez vaccinés ou qui ne le sont pas, je ne dis pas assez parce que bientôt, ça va être 3-4 doses. Et les gens qui ne sont pas vaccinés deviennent des hérétiques. Donc, c'est comme si c'est des gens qui ne voulaient pas se convertir à une nouvelle religion sanitaire. La vaccination, moi, je pense qu'il fallait la réserver d'abord aux gens qui en ont besoin, c'est-à-dire les obèses, les diabétiques, les personnes âgées. Donc, d'abord, le vaccin a été fait pour ça. Ensuite, est-ce qu'on l'étend aux 40 ans et 40-50, OK, 30-40, bon, 20-30. Les enfants, nettement exagérés, parce qu'on sait qu'à peu près aucun enfant en santé peut mourir du COVID. Puis même la contagion. Écoute, moi, ça fait un an là, que je vis tout à fait normalement. On est revenu en pleine crise. Quand je suis revenu à Mexico avec ma femme, la presse racontait que les gens mouraient dans la rue, puis bon, on creusait des fosses communes dans les parcs de Mexico pour enterrer les gens. Puis rapidement, on s'est rendu compte que tout ça était nettement exagéré. Même moi, quand je suis revenu, là, c'était en janvier, janvier 2021. Ouais. Je reviens au plus fort de la crise à Mexico, à ce moment-là, c'est une des villes avec le plus haut taux de mortalité à peu près au monde. J'en reviens ici, me dis bon. Puis là, j'avais des habitudes qui étaient ancrées, que j'avais prises au Québec. Donc là, les restaurants étaient encore ouverts ici. Fait que là, j'allais au restaurant, puis là, bon, la table n'avait pas été nettoyée, purélisée. Puis là, je disais, mais enfin, on va prendre une table, tu sais, purélisée. Puis toutes ces. Même moi, là, qui étais un critique, j'avais ça d'ancré tellement la propagande finalement est forte pour réaliser que oui, il fallait faire attention, mais petit à petit, tu reprends ta vie normale puis tu te rends compte que bon, Québec, c'est ça, on vit dans un environnement vraiment beaucoup trop aseptisé.
Tu départages la propagande. Puis il y a une chose qui est passée sous radar justement parce que ça ne cadrerait pas avec ça, c'est que les pays en voie de développement ont généralement 10 fois moins de morts, puis c'est la même comptabilisation de mort avec COVID et tout, que les pays développés. Moi, dans ma tête, il y a beaucoup de cet effet de nocebo-là qui est exercé plus fort ici. Tu sais, ça se transparaît bien dans ton livre qu'il y a moins de c'est moins violent, le martèlement gouvernemental. Puis les
beaucoup
mesures.
Moins. Puis écoute, de toute façon, les Mexicains, c'est des gens... jamais un Mexicain... songerait à consulter son gouvernement pour savoir comment et avec qui fêter Noël, par exemple. Ça, c'est bien québécois. Ça. Il y a vraiment juste les Québécois pour suivre aussi aveuglément un gouvernement. Ça, ça a été quelque chose qui m'a frappé vraiment. Tous les États du monde ont passé des restrictions, mais aucun peuple dans le monde les aura suivis aussi religieusement que les Québécois. C'est incroyable. Écoute, le couvre-feu ici, un petit couvre-feu pendant 3 semaines à peu près, les restaurants devaient fermer à minuit. Et là, au Québec, on me disait « Ah, mais vous aussi, vous avez un couvre-feu. » Ben ouais, okay, c'est parce que oui, là, vous avez lu la nouvelle qu'il y avait un couvre-feu. Mais moi, je vais vous expliquer c'est quoi le couvre-feu à Mexico. À minuit, on était sur la terrasse en train de boire une bière. Le propriétaire du bar du resto sortait, il me disait bon, mais il est minuit, là on rentre en dedans, puis on ferme les portes.
Je pensais que tu allais me dire on va dans la rue, mais non.
Mais non, on ferme les portes. Puis si la police arrive, ben tu lui donnes 300 pesos, voilà. Puis bon, tout le monde est content.
J'ai entendu des témoignages exactement similaires à l'autre bout de la planète, Thaïlande. Alors, c'est l'hémisphère sud, c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est moins. De mort. On peut continuer la réflexion en se procurant ton ouvrage « Un Québécois à Mexico, récit d'un double choc culturel ». Je le recommande Personnellement, ça se trouve pas mal dans toutes les bonnes librairies, mais comme on veut suivre les directives de François Legault et se confiner à l'infini, c'est-tu ça Amazon, ça? Ou?
Amazon Canada aussi, Amazon Canada, Amazon France, sans problème.
OK. Puis sinon, on peut te suivre très prolifique sur Twitter et Facebook, souvent savoureux. Je recommande aux gens d'aller donner un coup de like sur tes pages aussi. Puis en espérant te repogner avant un délai si long que la dernière fois, ça devait faire 2 ans. On ne s'était pas parlé. Bien heureux de ça.
Un grand plaisir, Guillaume. Puis au plaisir, c'est ça, de vous reparler de tout ça.
Prends soin de toi. À bientôt.
Merci beaucoup. Bye.
Merci. Jérôme Blanchet-Gravel, mesdames, messieurs.